Le texte que nous allons méditer, enfin que pardon, que nous allons commenter plutôt, se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 13 à 15, puis versets 29 à 32. En voici la lecture. Frères, je vous le dis à vous, qui étiez païens, d'à mesure même où je suis apôtre des païens, ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race, et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même, eux aussi, maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour que maintenant eux aussi ils obtiennent miséricorde. Dieu en effet a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Ce texte est a priori d'un abord difficile parce que des choses peuvent nous surprendre et voire nous choquer si nous ne méditons pas plus avant cette parole. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour les sauver. Ça paraît paradoxal, voire choquant. Alors, je vous propose un commentaire de ce texte qui, je l'espère, vous aidera à rentrer plus avant dans ce passage qui est si riche d'enseignements sur la façon dont Dieu agit pour sauver le monde et nous sauver. Alors, d'abord, l'idée générale, si le monde avait été parfait, malgré le péché, les Juifs auraient accepté le Messie et leur mission aux Juifs, au peuple d'Israël, était de révéler ce Messie. De révéler l'amour de Dieu et de sauver l'humanité en justement transmettant la vraie connaissance du Seigneur. Ça apparaît tout particulièrement dans le livre d'Isaïe. Par exemple, le serviteur souverain du chapitre 53 est bien sûr une référence à Jésus-Christ, mais il peut être aussi compris comme une référence au peuple juif qui, par son obéissance au Seigneur, va révéler au monde entier l'existence du vrai Dieu. Ça t'est dans l'idéal. Donc dans l'idéal, les Juifs acceptent le Messie, acceptent cette nouvelle révélation plus spirituelle et plus universelle, et prennent plus leur rôle de témoin pour le monde entier au sérieux. Malheureusement, les Juifs, dans leur grande majorité, ont refusé Jésus comme Messie. Est-ce que le Seigneur allait, du coup, abandonner son projet de sauver l'humanité? Les choses ne se sont pas passées, si j'ose dire, comme le Seigneur aurait pu le vouloir. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe dans ce texte? Ce texte nous montre que malgré les difficultés, la grâce de Dieu trouve un chemin et Dieu tire du bien du mal. Le mal étant le refus des Juifs, le bien est qu'il utilise ce refus pour confier la vigne à d'autres, qui sera l'Église, faite en majorité de païens et qui va effectivement transmettre la connaissance du vrai Dieu. Ça, c'est très instructif. Dieu ne détruit pas les obstacles, il accepte les obstacles dus à notre liberté de le refuser, mais malgré ces obstacles, il trouve un autre chemin pour arriver à ses fins. Dans notre vie, c'est très instructif, ce n'est pas simplement d'un point de vue historique. Dans notre vie, le Seigneur va, malgré les obstacles, malgré nos réticences, nous sauver, exaucer nos prières. Par exemple, si nous prions pour être pour nous-mêmes, pour vaincre tel ou tel défaut, mais que nous sommes réticents à obéir au Seigneur, le Seigneur, dans la patience, va petit à petit nous former pour que finalement sa prière s'exauce. De même pour nos frères. Si nous prions pour nos frères, notamment pour leur conversion, ils sont libres de refuser. Le Seigneur, son but est d'amener tous les hommes au salut, au bénéfice de sa miséricorde, eh bien cela prendra plus de temps parce que le Seigneur ne détruit pas la liberté humaine, il l'épouse, il l'accepte, il la respecte, mais il contourne la difficulté pour sauver tout de même la personne pour laquelle nous prions. Cela veut dire qu'il faut beaucoup d'amour, de patience et de prière envers nous-mêmes et nos défauts et envers les autres. De même, si nous regardons le monde, il y aurait de quoi désespérer devant le refus du monde face à la main tendue de Dieu. Ne nous décourageons pas, car le Seigneur a un chemin, a une grâce qui va traverser les obstacles, si j'ose dire, pour nous amener, pour amener le monde à sa suite vers la lumière. C'est très important. Ceci doit nous encourager à la persévérance et à la patience dans la prière, dans la parole et dans l'action. Donc maintenant, si nous nous penchons plus avant dans le texte, disons verset par verset, nous allons essayer de comprendre encore plus avant ce passage de la Bible. « Frères, je vous le dis à vous qui étiez païens dans la mesure même où je suis apôtre des païens. » Ce verset anodin est très important car Paul se permet de parler à des gens parce qu'il se sent proche d'eux. Nous-mêmes, nous devons être proches des gens si nous voulons leur révéler quelque chose de Jésus-Christ, en acte d'abord et puis éventuellement en parole. Mais il faut d'abord être proche des gens, les aimer, les écouter. Comme Paul qui peut se permettre de parler aux païens parce qu'il s'estime apôtre des païens. Donc Paul dit « Ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. » Alors ici, il parle aux Juifs, il parle des Juifs. Notons que Paul appelle des gens qui l'ont lapidé, qui constituent un obstacle à sa mission, ses frères de race. Paul est fidèle en amitié, fidèle en amour. Nous-mêmes, nous devons être fidèles. Les gens, nous devons les aimer comme nos frères de race. Autrement, notre vie de témoignage portera peu de fruits. Aimons qui que ce soit comme nos frères de race. Ici, Paul, d'ailleurs, accepte de les aimer jusqu'à en souffrir, car c'est évident que Paul souffre du fait que les Juifs n'acceptent pas Jésus comme Messie, eux qui lui sont si proches. Nous-mêmes, nous devons accepter d'aimer nos frères, même si cela comporte une part de souffrance devant leur indifférence et leur hostilité face à nous, et notamment face au Seigneur que nous voulons leur transmettre, que nous voulons leur partager. Eh bien, nous devons les aimer malgré tout. C'est aussi quelque chose que nous pouvons vérifier dans nos vies. Il arrive souvent que les gens les moins réceptifs à notre foi soient nos proches. Eh bien, Paul ne se décourage pas, il les aime jusqu'à en souffrir. Et c'est ça qui va finir par les amener au Seigneur. Alors nous continuons. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Ici on peut distinguer à peu près trois niveaux d'interprétation. Le premier, qui est littéral, assez fidèle, qui est fidèle au texte, c'est en rapport avec le peuple juif. Le peuple juif est le peuple élu qui a reçu les promesses, et ici, qui volontairement s'est tenu à l'écart. Pourquoi donc insister sur le peuple juif? Le Seigneur aime l'homme. L'homme est une petite créature, libre de le refuser ou de l'accepter. Le Seigneur travaille toujours en douceur, de l'intérieur vers l'extérieur, à l'intérieur de nos cœurs, pour petit à petit rayonner à l'extérieur. D'un point de vue historique, le Seigneur a choisi un petit peuple qu'il travaillait de l'intérieur pour le faire rayonner après extérieurement. Ce peuple, c'est comme un condensé de nous, êtres humains. Ce peuple, et c'est pour ça que ce peuple est si important aux yeux de nous chrétiens et du Seigneur. Ce peuple, c'est un résumé de l'humanité. Et quand ce peuple sera réintégré, alors toute l'humanité sera vraiment prête à recevoir le Seigneur. Comparons, nous sommes comme un arbre et le peuple juif constitue nos racines. L'arbre, dans la nature, ce n'est pas possible, mais ici, c'est ça le mystère, parce que ça reste un mystère. L'arbre donne de beaux fruits, l'Église, nous-mêmes, enfin, pas toujours des beaux fruits, mais nous acceptons le Seigneur, nous essayons de porter de beaux fruits, mais les racines, le peuple juif, ok, sont malades. Eh bien, le jour où l'arbre complet sera saint, c'est-à-dire au bénéfice de la grâce de Dieu pleinement manifestée par l'amour de son Fils, eh bien, l'arbre complet sera saint, et alors, quelle joie pour l'humanité! Si dès maintenant, malgré des racines malades, l'Église et le peuple chrétien est déjà capable, parfois, j'espère souvent, de donner de merveilleux fruits. Qu'en sera-t-il? Ce sera encore bien plus fort quand les racines seront elles-mêmes saines, guéries par le Seigneur. C'est ça que cela veut dire de la part de Paul. Si on prend le texte, en fidélité à ce que l'auteur, c'est-à-dire Saint Paul, veut nous dire. Alors, on peut aussi comprendre ça comme étant un appel pour nos frères. Nous sommes sauvés, le peuple chrétien est sauvé, mais il y en a tellement qui sont à l'écart. Eh bien, qu'arrivera-t-il quand ces personnes qui refusent le Seigneur, qui restent en dehors de l'Église, qu'arrivera-t-il quand ces personnes seront réintégrées ? Ce sera la vie pour eux qui étaient morts. Mais comme le peuple juif, quand il sera réintégré, tout l'arbre rayonnera encore plus, eh bien ces personnes, non seulement quand elles seront réintégrées au peuple de Dieu, connaîtront la vie, mais en plus, elles vont contribuer à rayonner encore plus l'amour de Dieu et sauveront d'autres personnes, parce qu'elles-mêmes seront désireuses d'être témoins. Eh bien, tout ça doit nous habiter quand nous prions pour nos frères. Prions pour nos frères parce qu'ils sont comme morts sans le Seigneur. Il faut le savoir. Nous-mêmes, si nous avons rencontré personnellement le Seigneur, nous nous rendons compte que le Seigneur nous fait vivre, qu'avant de le rencontrer, notre vie n'était que mort. Eh bien, pour nos frères, soyons motivés. Nous voulons leur transmettre ce Seigneur qui peut les faire vivre dans leurs difficultés, dans leurs dépressions. Alors, prions pour eux, aimons-les et témoignons en parole si cela nous est donné quand le moment est venu pour les amener au Seigneur, car ils trouveront la vie. Mais soyons aussi motivés parce que quand ils trouveront la vie, ils en amèneront d'autres au Seigneur. Vous voyez, ce rayonnement, ça part de l'intérieur de la personne et après cette personne va rayonner vers l'extérieur. La grâce de Dieu travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça le respect de Dieu, de nos libertés. Toujours un travail intérieur, doux et discret pour après rayonner. Et enfin, on peut interpréter ce passage avec une interprétation dite morale ou tropologique selon les anciens, les pères de l'Église. Dans nos vies, dans notre âme, il y a des zones qui sont mortes que nous refusons encore au Seigneur. Elles sont comme tenues à l'écart. Notre être est sauvé, mais ces zones-là ne sont pas sauvées. Qu'arrivera-t-il quand elles seront réintégrées ? Eh bien, ça sera la vie aussi pour elles. Tel péché qui nous rend esclaves, qui nous enchaîne, tel défaut, telles zones de notre vie que nous ne confions pas encore au Seigneur, elles sont comme mortes. Eh bien, quand elles seront réintégrées, elles seront vivantes, elles nous permettront à nous de rayonner plus pleinement l'amour du Seigneur. Alors, pensons toujours à nous rendre disponibles plus que nous pouvons à la grâce du Seigneur pour que toute notre vie soit au bénéfice de son amour et rayonne. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. C'est un appel, c'est à rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Je dirais que le peuple juif a encore sa fonction première de montrer l'amour de Dieu, dans la mesure où il montre par son existence que l'amour de Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, ses dons sont irrévocables. De même pour nous qu'elles le sont, malgré nos défauts ou malgré les défauts de nos frères, le Seigneur les aime et le Seigneur nous aime. Que ceci nous encourage à ne pas nous-mêmes désespérer de nos défauts, et que cela nous encourage à nous relever après nos péchés, fort de la miséricorde de Dieu, et que cela nous encourage à ne pas juger nos frères, mais à les aimer, parce que le Seigneur, ses dons et son appel sont irrévocables. Il aime toute personne, malgré ses agissements. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. Ici, nous voyons comment la grâce de Dieu qui trouve un obstacle le contourne pour arriver à son but et même à aller plus profond. Car le Seigneur a rencontré le refus des Juifs, eh bien, il a fait quelque chose de plus grand. Il a amené le reste de l'humanité à le connaître. La grâce de Dieu agit de la sorte. Quand le Seigneur nous rencontre un obstacle, eh bien, soyons sûrs que le Seigneur respecte toutes ses libertés, respecte toutes ses réticences, pour vraiment aller plus loin et tirer du bien du mal. Soyons-en conscients et que ceci donne du courage dans les difficultés de notre vie, car le Seigneur va tirer du bien du mal, comme il a dans l'histoire du refus des Juifs, il va faire naître l'Église. De même, eux aussi, maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Déjà, d'un point de vue strict du texte, nous avons un devoir par rapport au peuple juif, c'est de prier pour eux, de les aimer, pour qu'ils rencontrent le Seigneur, et non pas de les juger et de manifester de l'antisémitisme, par exemple. Chose abominable aux yeux de Dieu, comme ce texte le montre. Ensuite, pour les personnes par rapport auxquelles nous pouvons prier, Eh bien, regardez, malgré les obstacles, Dieu veut leur manifester sa miséricorde. À cause de la désobéissance, etc., vous avez obtenu miséricorde. De même, eux aussi, maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Alors, malgré les obstacles, le Seigneur va manifester sa miséricorde pour ces personnes. Il a besoin pour cela de notre compréhension, de notre humanité, de notre liberté, qui peut se faire soutien à sa grâce par la prière et l'amour que nous manifestons à nos frères. Maintenant, dans nos propres vies, c'est un appel. Souvent, le Seigneur, nous prions pour un exaucement. Et nous voulons faire la volonté du Seigneur. Prenons cette image. Un enfant tient la main au Seigneur, tient la main par exemple à un adulte, et lui dit dans ces moments de calme, je veux que tu m'aides. Et puis après il se débat. Et puis prenons l'autre cas, un enfant qui dit je veux que tu m'aides et se laisse prendre par la main et conduire. Dans le deuxième cas, c'est plus facile pour l'adulte de le guider. Et bien pour le Seigneur c'est pareil. Dans nos moments de prière, d'obéissance, nous nous confions au Seigneur. Et puis, souvent, quand nous sommes dans la vie quotidienne, il y a des résistances. Nous résistons à la grâce du Seigneur, à ce qu'il nous guide. Eh bien, ce texte nous dit que malgré tout, le Seigneur va arriver à nous guider, malgré nos réticences, parce qu'il sait au plus profond ce que nous voulons. Mais il respectera nos libertés, et nos réticences, bien sûr, freinent la grâce de Dieu et son action. Alors, c'est là où le verset prend tout son sens. De même, eux aussi, maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue, et la suite. Mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Donc, nous avons des réticences. Dieu agit malgré nos réticences. Mais ces réticences doivent obtenir miséricorde. Comme le peuple juif, maintenant, doit obtenir miséricorde. Ben, à travers ces réticences, nous devons, j'ose dire non pas à travers, mais nous devons nous laisser évangéliser. Nous devons nous laisser purifier dans nos réticences pour qu'elles-mêmes obtiennent miséricorde et que de ce garçon qui se laisse traîner par la main de l'adulte et qui refuse d'avancer, devenions ce garçon docile qui se laisse guider par la main de l'adulte. Que d'une personne qui prie mais qui, dans la vie quotidienne, a du mal à suivre le Seigneur, que nous devenions ces personnes dociles à la grâce du Seigneur, que ce soit dans les moments forts de la prière ou dans les moments de la vie quotidienne, qui, si nous devenons obéissants au Seigneur en toutes choses, ces moments se font eux-mêmes prière. Voyez, donc nous devons prier, nous devons faire tout notre possible pour nous ouvrir à la grâce de Dieu, pour que toutes ces réticences qui freinent la grâce de Dieu obtiennent miséricorde, c'est-à-dire que ces réticences disparaissent. Alors, prions toujours davantage au Seigneur pour qu'il vienne à bout de nos réticences et nous-mêmes faisons l'effort de nous rendre disponibles à la grâce du Seigneur. Et enfin, Dieu en effet a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Dieu a un but, c'est notre salut. Et quoi que nous fassions, quels que soient nos défauts, Dieu nous aime malgré tout et veut nous sauver. Que ceci soit un encouragement. D'abord pour prier pour le peuple juif. Le peuple juif, c'est aussi ce frère aîné. Hein, vous savez, dans la parabole de l'enfant prodigue qui refuse d'entrer. Eh bien, prions pour que ce fils aîné rentre, pour que l'arbre soit entièrement sain. Car le but de Dieu, c'est que toute l'humanité, les juifs et les non-juifs, viennent à sa miséricorde. Je dirais que avant l'Église, il y avait les Juifs croyants et les non-croyants. Maintenant, il y a des non-croyants, il y a l'Église, et il y a les Juifs qui peuvent être nommés, si j'ose dire, de mal-croyants, c'est-à-dire qu'ils croient, ils ont les promesses, etc., mais il leur faut accepter le Messie et se rendre compte que l'amour de Dieu est plus une affaire de grâce et de foi qu'une affaire d'obéissance à des commandements et d'agir par soi-même pour obtenir l'amour de Dieu. Donc déjà, soyons conscients que Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée, juif comme non-juif. Ensuite, dans notre vie quotidienne, quand nous voyons nos frères, soyons sûrs que malgré leur réticence, malgré les difficultés, les hostilités, le Seigneur donc, a comme enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur manifester sa miséricorde. Donc le Seigneur accepte cette désobéissance, en ce sens il les a enfermés parce qu'il accepte, il respecte notre liberté. Mais ça n'empêche que le Seigneur va leur manifester sa miséricorde. malgré les réticences, la grâce de Dieu trouvera un chemin. Je répète, c'est important. Malgré les réticences et les obstacles, la grâce de Dieu trouvera un chemin. Et ce chemin sera trouvé d'autant plus facilement que nous, êtres humains, par notre liberté, nous appuyons la grâce de Dieu qui, justement, essaie de trouver un chemin malgré la liberté que les hommes utilisent mal. Alors nous, par notre liberté que nous utilisons bien, en faisant la volonté de Dieu, en priant pour nos frères, en les aimant, eh bien nous accompagnons la grâce, nous lui tenons la main, et main dans la main, nous trouverons un chemin pour que ces gens viennent à Dieu en les aimant, en priant pour eux. Il faut en être convaincu. C'est très important parce que souvent nous nous laissons décourager face au peu de réceptivité que les gens, notamment nos proches, manifestent à la parole de Dieu. Mais c'est pas parce que dans l'immédiat ils manifestent peu de réceptivité que les choses sont finies. Ne l'oublions pas. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Dieu tient compte à court terme des réticences, mais ça n'empêche qu'il finira par les vaincre. N'oublions pas, de l'intérieur vers l'extérieur. Le Seigneur travaille à l'intérieur des cœurs pour qu'un jour, librement, grâce à notre prière d'homme libre, à nous et notre amour, que ces hommes aussi librement puissent accepter la grâce de Dieu. Et dans notre cœur, si nous continuons l'interprétation plus morale, plus intérieure, plus tropologique, pour utiliser un gros mot si j'ose dire, eh bien dans notre cœur c'est pareil. Le Seigneur accepte nos réticences, mais il travaille de l'intérieur notre cœur pour que tout ce qui avait été enfermé dans la désobéissance, eh bien, soit un jour au bénéfice de la miséricorde de Dieu. Ne nous décourageons pas devant nos défauts, devant nos manques d'amour. Le Seigneur, si nous prions avec ferveur et sincérité, si nous acceptons dans la mesure de notre possible de faire sa volonté au jour le jour, en priant, le Seigneur va vaincre nos désobéissances et manifester sa miséricorde dans tout notre être, y compris dans les zones d'ombre qui nous paraissaient inaccessibles à la grâce de Dieu. Voilà, j'ai fini ce commentaire. J'espère qu'il vous a aidé à mieux comprendre ce texte. Prions maintenant si vous le voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, je te remercie parce que tu sais tirer du bien du mal, que malgré tous les obstacles que tu rencontres en nos cœurs, dans le cœur de nos frères, dans le cœur de ce monde, dans le cœur du peuple élu, le peuple juif, malgré tous ces obstacles, tu continues d'aimer et par cet amour fidèle, tu continues par ta grâce d'arriver à trouver un chemin, de tirer du bien du mal. Oui, Seigneur, merci. Et que cette vérité nous aide à être toujours plus persévérants dans la prière, l'amour, la foi, la méditation de ta parole. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.